Elle me disait, quand tu trouveras chaussures à ton pied, ce qui est affreusement gênant quand on a 14 ans et qu'on n'est pas très bien dans ses baskets. Puis je crois que je cherchais pas du tout le type d'emboîtement qu'elle avait en tête. Et puis dans cette expression, trouver chaussures à son pied, je suis désolé, il y a une vision de l'amour qui relève du piétinement. Sans même parler, c'est pas mon genre, de contenu ou de contenant. Alors je sais qu'il est toujours préférable de les choisir à la bonne taille, sous peine d'ampoule, d'oignon ou de callosité, d'une douleur qui ne se règle en aucun cas par une quelconque nonchalance ou par un pied de nez. Mais le problème, c'est que soudain, c'était un ordre plus qu'une promesse, vous comprenez. Il fallait à tout prix trouver chaussures à son pied. Et puis petit à petit, bah, c'est devenu ainsi, si tu trouves chaussures à ton pied, jusqu'à ce que je tombe sur l'origine de cette expression qui, au XVIIe siècle, dit-on, n'avait pas du tout la même signification. Trouver chaussure à son pied, c'était trouver quelqu'un qui vous résiste, qui vous empêche de passer, ce qui ne raconte pas du tout la même histoire sur le papier. Et pourtant, vous en conviendrez, il arrive souvent que l'amour vous tombe dessus après une petite résistance devant un obstacle, avec de la patience ou de la ténacité. Combien de fois ai-je trouvé chaussure à mon pied ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est chausseur, mais est-il pour autant bien chaussé? Ça fait plus de 30 ans qu'il dessine, notamment des souliers tout en élégance, architecture, géométrie. Il a collaboré avec les plus grands avant de créer sa propre maison. Visionnaire, au tournant des années 2000, il a été l'un des premiers à faire basculer la chaussure de sport dans l'univers du luxe et de la mode. Ce matin, il est venu nous parler de lignes, de formes et de coups de pied. Bonjour Pierre Hardy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous
ce matin.
Alors, comment trouve-t-on chaussure à son pied? Est-ce que vous avez fini par le savoir?
Mais non, c'est une quête impossible. Jamais. Et il faut jamais la trouver. C'est ça qui fait mon métier, c'est ça qui fait la mode aussi. C'est qu'on croit toujours la trouver et qu'elle nous échappe en permanence. C'est ce que je cherche aussi, moi, d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous portez comme chaussure ce matin?
Des boots noirs, très simple.
Pierre Hardy.
Oui.
Et la qualité de cette chaussure, à quoi vous la mesurez en tant que personne chaussée? Puisqu'on parle de vous, là.
Je pense qu'il faut l'oublier à un moment donné. Enfin, elle est très importante avant de la choisir, avant de la créer, avant de la mettre, quelle que soit la position dans laquelle on soit, que ce soit juste, moi en tant que designer, mais d'autres en tant que juste, gens qui portent des chaussures. Je pense qu'il faut l'oublier. Les Italiens disent, si vous voulez plus avoir de soucis, achetez des chaussures trop petites. C'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à ça. On a tellement mal, donc on oublie toutes les autres choses qui sont plus importantes. Et cette chaussure, et en même temps, c'est drôle parce que elle vous porte, enfin je sais pas, c'est un truc, on l'oublie, en même temps c'est elle qui construit tout notre inconscient de la silhouette, tout ce qu'on a envie d'exprimer quand on s'habille le matin. Enfin, si tant est qu'on ait envie de dire quelque chose quand on s'habille.
Il y a quand même un dessin, Pierre Hardy, d'abord. Est-ce qu'un dessin fait forcément une bonne chaussure? Parce que pour vous, c'est par le dessin que tout commence, en fait.
Ouais, et ben non, justement, un beau dessin peut faire une chaussure très moche. Mais vraiment, et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Et c'est plus compliqué que ça. D'abord, un dessin, c'est en 2D, une chaussure en 3. Une chaussure, elle va aussi se fondre avec la personne qui la porte. C'est pas une abstraction, c'est pas une chose de pied. C'est vraiment, ça devient comme une deuxième peau d'une certaine manière, comme un maquillage aussi. Un maquillage, il est pas beau en soi, il est bien sur un visage. Ben la chaussure, c'est pareil, je trouve. C'est un truc comme ça qui s'apparente, qui se fond. Donc, non, un beau dessin n'est pas forcément une belle chaussure.
N'empêche, c'est intéressant parce que vous avez dessiné pour des marques comme Dior, Balenciaga, vous dessinez encore pour Hermès. Mm-hmm. Il a fallu d'une certaine façon ajuster votre créativité à l'identité de chacune de ces maisons, à ses codes, à ses traditions. Dans quelle mesure est-ce qu'on est libre en tant que créateur, dès lors qu'on se doit aussi de répondre à un cahier des charges?
Oui, mais c'est comme un, je sais pas, moi c'est un peu comme un comédien, comme un musicien. Chez Hermès, je suis un violon dans la fosse d'orchestre, et on est beaucoup à jouer en même temps, et de temps en temps on a un solo. C'est ça, et il y a une partition, il faut la jouer avec les autres, parfois tout seul, voilà, c'est ça. Après, moi, et quand je suis dans ma propre maison, là c'est un one man show. C'est-à-dire que je suis tout seul à mon piano et voilà, et je joue ce que je veux. Mais c'est pas plus compliqué que ça.
Et puis ça peut être pas mal d'avoir de la contrainte pour avoir de la liberté.
Ah non, mais c'est enfermer un esprit, il s'évade, c'est vraiment la règle, je pense. C'est un cadre, il est donné, et en même temps, il faut l'oublier, il faut le dépasser, toujours.
Vous avez vu les métaphores que vous prenez sur la danse, sur le théâtre, comme ça? Il se trouve que vous avez fait beaucoup de danse, Pierre Hardy, de danse classique notamment, un art exigeant, contraignant, qui demande rigueur, discipline, exigence. Il en reste quoi du danseur en vous, dans la façon que vous avez d'envisager le travail?
Le contrôle.
Au moins c'est clair.
Mais oui, parce que je pense pas que ça fasse. Je pense pas que ça crée une esthétique. En fait, je sais pas, les gens me demandent si ça m'inspire la danse. Non, ça m'inspire pas parce que c'est un art et à ce titre-là, il est assez éloigné de la réalité d'une certaine manière, même s'il y est bien sûr attaché. Mais c'est pas directement comme ça transposable. Donc c'est plutôt des attitudes. Enfin voilà, une façon de prendre les choses.
Et vous faites un lien entre le dessin et la danse?
Oui.
Lequel?
Ben le contrôle encore. Il y a cette maîtrise de dans la répétition aussi, d'insister sur le motif, de revenir, de chercher à quel endroit ça va être en équilibre, à quel endroit ça se casse la gueule, à quel endroit ça marche, ça tourne, ça pivote. Voilà, c'est ce genre de choses. Et le dessin, c'est ça aussi.
C'est vrai.
Ah oui.
Et vous diriez, ça m'intéresse moi, que danser, c'est d'une certaine façon dessiner aussi.
Oui, complètement. C'est dessiné dans l'espace, c'est dessiné en mouvement, c'est dessiné aussi, mais de façon éphémère. C'est ça qui est beau dans la danse, et je pense qu'il existe assez peu dans d'autres arts, peut-être le théâtre, mais ça n'arrive qu'une fois.
Quand vous dessinez, Pierre Hardy, quand vous laissez votre main courir sur le papier, est-ce que vous avez l'impression de danser ?
Pas tout à fait, parce que c'est beaucoup plus introverti, c'est beaucoup plus statique comme activité, c'est plus intérieur aussi, ça s'exprime pas de la même façon, mais en tout cas, peut-être que le rapport avec la feuille, c'est comme le rapport avec le miroir pour un danseur. Enfin, je me souviens de ça quand on insiste comme ça sur des mots pour les intégrer complètement, le dessin c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est dessiné jusqu'à ce qu'il y ait une évidence qui se crée, qu'il n'y a plus d'effort. À un moment donné, il n'y a plus d'effort.
Je vois parler avec vos mains, la main, quel outil est-ce que c'est pour vous?
C'est essentiel. Quand j'étais petit, j'ai longtemps eu un fantasme que je ne pourrais plus m'en servir, et donc je m'entraînais à dessiner avec la main gauche. Pour si jamais il m'arrive quelque chose avec la main droite.
Je croyais que vous alliez me dire dessiner avec les pieds.
Non, ça, j'ai pas essayé. Mais la main gauche, ça m'a obsédé longtemps.
C'est intéressant ce lien entre la danse et le dessin, parce qu'il place d'emblée vos créations sous le signe du mouvement. Comment fait-on, Pierre Hardy, pour donner du mouvement à un dessin, pour créer une impression de mouvement?
Oui, peut-être les chaussures, peut-être plus que tout le reste, c'est un outil de marche aussi, c'est un outil qui vous porte, donc la forme, elle va induire, le volume, il va induire une façon de bouger, il va induire une façon de se comporter, moi je sais pas, il y a des chaussures avec lesquelles je peux pas danser.
Ouais.
C'est difficile de danser avec des sandales, par exemple, je trouve.
C'est un scandale, hein.
Oui, non, mais c'est mieux que des sandales.
Pourquoi pas des tongs,
Pierre? Non, mais voilà, il y a un truc comme ça. Donc, je pense que vraiment et au moment où on la dessine, où je la dessine, on pense à ça quand même, on pense à cette façon que la chaussure va imposer une façon de bouger, de se mouvoir.
Qu'elle sera constamment en mouvement en fait.
Aussi, oui.
La chaussure, elle influe sur la cambrure aussi, sur la démarche, sur l'attitude. Au fond, que peut une chaussure? Quel pouvoir est-ce qu'elle a?
elle peut, alors... derrière ça, moi, je pense à cette espèce de cliché du fétichisme, où c'est de la séduction et du sexy qui m'énerve. Oui, parce que je pense pas qu'une femme, elle ait envie de ce pouvoir-là 24-24. Enfin, je pense que ça fait partie des émotions, ça fait partie du désir que chacun peut avoir de se sentir désirable, sexy, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'autres motivations que la chaussure, entre autres, bien sûr, peut vous donner. J'ai envie d'être juste fort, par exemple, ou d'être confiant, ou d'être d'avoir l'air plus intelligent. On peut avoir l'air bête avec certaines chaussures, moi, je pense. Bah oui.
Donnez-nous la clé. Quelles chaussures faut-il mettre pour paraître intelligent?
Non, ça dépend de chacun. Et ça suffit pas, surtout.
Certainement pas la tongue. Celle qui n'a aucun pouvoir dans cette émission, vous la connaissez, Pierre, c'est la culture. Et son actualité va nu-pied. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 9 février? The Power of Campion. Les nominations pour les Oscars ont été révélées hier par l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma. C'est la cinéaste Jane Campion qui s'impose comme la grande favorite de la cérémonie qui se tiendra le 27 mars prochain, en cumulant près de 12 citations pour son film Netflix The Power of the Dog. Juste derrière, on retrouve Dune de Denis Villeneuve, Belfast de Kenneth Branagh et le West Side Story de Spielberg. En revanche, pas de film français en lice.
Qu'est-ce que vous espériez trouver, le bonheur dans les lits ?
400 millions, c'est le nombre d'ouvrages achetés par les Français en 2021. Un record selon les données révélées hier par le cabinet GFK Market Intelligence, soit 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout support confondu, numérique ou physique, ça représente une hausse de près de 18% par rapport à 2020. Star incontestée des librairies, la bande dessinée et notamment le manga fait office de locomotive du secteur avec une part de marché en augmentation de près de 50%. Thank you again. Vous connaissez Queen Bee, place maintenant à Queen A. La diva britannique Adele a cassé la baraque hier soir lors de la cérémonie des Brit Awards à Londres, organisée sans catégorie de genre pour la première fois. La soirée a vu la chanteuse de Easy On Me écraser toute concurrence et repartir avec les trois prix les plus prestigieux de la meilleure artiste, du meilleur album et de la meilleure chanson de l'année.
J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau.
Et enfin, mercredi, de Grand Bleu Cinéma à nous deux. Aujourd'hui, dans les salles, on plonge la tête la première dans Enquête sur un scandale d'État, le nouveau long-métrage du Corse Thierry Peretti, qui était notre invité lundi. En s'inspirant de faits réels, le réalisateur d'Une vie violente et des Apaches explore les coulisses et les vices d'un trafic de drogue qui remonte jusqu'aux hautes sphères de la République et interroge avec maestria l'art du récit. C'est un film stupéfiant, porté par Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon et sublimé par la lumière de Claire Maton. Que du bon. Et le créateur Pierre Hardy, invité de Boomerang ce matin pour parler de chaussures, de mouvements, mais aussi d'une certaine conception de la mode. La mode dont vous dites volontiers, Pierre, que ce n'est pas un art. Pour quelle raison ?
Parce que c'est un marché. Enfin, l'art aussi est un marché, vous me direz. Mais, oui. Mais c'est une industrie aussi. C'est une... Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a des points de tangence, il y a des connexions, bien sûr. Ça fait pas toujours bon ménage, je trouve, en plus.
C'est-à-dire qu'à vous entendre, c'est aussi le lieu où un artiste peut pas forcément s'exprimer de la manière la plus absolue.
Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai que la mode, elle est relative à un moment, elle est relative à, à un public aussi. Enfin, voilà, des choses qui sont beaucoup plus dans le quotidien, dans le trivial aussi, mais c'est pas grave, hein. C'est pas, il faut dealer avec ça. C'est aussi le plaisir de ça, c'est-à-dire de l'actualité comme ça, c'est une dynamique, voilà, dont l'art, je pense, enfin peut-être c'est un fantasme, peut-être c'est un rêve que j'ai, qu'il est plus peut-être plus éthéré, enfin aussi plus moins lié, voilà, c'est ça, des contingences, on va dire.
C'est drôle, on en revient à cette dialectique de la contrainte et de la liberté dont on parlait tout à l'heure. Vous consacrez exclusivement aux beaux-arts, Pierre Hardy, au dessin, à la peinture. Ça aurait été envisageable, ça ?
Ben, je ne sais pas. Je pense que si je ne l'ai pas fait, c'est que ça ne l'était pas envisageable. Sinon, je l'aurais fait. Rien ne m'en a empêché, en tout cas.
Un art comme la peinture, c'est toujours une source d'inspiration pour
vous ?
Oui,
tout le temps, entre autres, la peinture, tous les arts plastiques, oui, la sculpture, beaucoup aussi. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je sais que j'aime pas tellement les expériences quand la peinture apparaît trop de façon littérale dans la mode.
Si c'est pour nous faire une Joconde sur une tennis, merci mais non merci.
Eh ben oui, mais enfin, on l'a vu, on en a vu d'autres. Il y a même des expositions en ce moment qui lient de façon très proche la mode et la peinture. Je pense que ni l'un ni l'autre n'en tire une bonne chose. Je pense que ça ne tire pas la peinture à l'eau et ça n'enrichit pas la mode de nouveautés. Je pense que ça la rend pas créative.
Alors,
je trouve.
Qu'est-ce que vous allez chercher dans la peinture ? Une forme ? Un mouvement, justement ?
Mais je pense que, ce qui se passe en art plastique, en peinture ou en art contemporain, c'est peut-être c'est le laboratoire c'est la Formule 1 de l'esthétique, de l'expérimentation esthétique. Donc c'est là que peut-être qu'il y a des nouvelles formes qui vont apparaître, ou des nouveaux mélanges, des nouvelles associations, des choses comme ça. Et je sais pas si la mode en a besoin, si elle doit s'en servir, mais en tout cas, moi, ça me nourrit, ça m'intéresse.
Quand vous avez découvert la peinture, Pierre Hardy?
Assez jeune, parce que tout le reste m'intéressait. Enfin, le dessin, la peinture, à part ça, rien ne m'intéressait vraiment. J'ai attendu d'être vraiment étudiant en art plastique pour comprendre que des études, ça pouvait être intéressant. Mais avant, je le faisais parce que j'étais obligé, mais il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait.
Parce que quelle place avaient les arts dans votre famille ?
Pas tellement. J'avais une tante qui était prof de dessin, c'est tout, mais elle faisait de la peinture comme ça. Mais sinon, mes parents étaient enseignants, c'était plutôt des gens physiques. C'était plutôt le sport, la danse, des choses comme ça. Donc ça, oui. Mais ils m'ont pas empêché. Ils ont trouvé ça très bien que j'ai envie de faire ça. Donc c'était pas du tout il y avait pas de blocage.
Et la mode? On en parlait? On l'aimait?
La mode, on l'aimait comme, je pense que, comme tout petit garçon, qui regarde sa mère acheter elle et s'habiller, voilà, dans les années 60-70.
Pas forcément tous les petits garçons, mais je vois qu'on est du même bord, Pierre.
Bon, quand même, c'est de toute façon l'image, la première image féminine qu'on a, c'est par là que je pense que ça passe. Après, bien sûr, après beaucoup les magazines, puisque c'était à peu près le seul média, auquel j'avais accès.
N'empêche, c'est intéressant. Quand est-ce que vous avez commencé à être sensible à la manière dont s'habillaient les gens dans la rue? Aller regarder.
Alors, les gens, je sais pas, moi, à 3 ans. Je sais je m'en souviens plus, parce qu'on se souvient,
mais
je
sais. Vous êtes précis, pourtant.
Oui, mais oui, parce que ma mère et mes grands-mères m'ont raconté des scènes que je pouvais faire, parce que je voulais pas sortir avec ça sur le dos, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un truc qui m'a tout de suite, je sais pas si c'est intéressé, mais en tout cas, ah oui, oui.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous ne vouliez pas vous mettre sur le doigt à l'âge de 3 ans?
Je sais pas, des certaines couleurs et des choses.
Lesquelles?
Je sais plus. On m'a pas raconté. Et puis après, adolescent, je pense que c'est, moi j'étais adolescent dans les années 70, donc c'était formidable. On verra ce qu'on voulait. Mais comme aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de cette histoire en ce moment, fille-garçon, oui. Genderful, etc. Et moi, je me souviens de mon adolescence et de ma jeunesse, c'était un peu ça quand même. Sauf que c'était plus caché, c'était moins revendiqué, c'était moins esthétisé. Mais dans la réalité, c'était déjà ça. Enfin, moi, j'avais les cheveux plus bas que les épaules, des manteaux maxi, je sais pas quoi, des trucs à franges, des pantalons bleus avec des étoiles en cuir. Enfin, vraiment, c'était très, très, très baroque. D'une certaine manière, les mélanges, etc.
Et ça venait après les années 60, dans lesquelles vous avez grandi, cette décennie des années 60, qui est importante pour vous. À quelle silhouette, quelle forme, quelle démarche est-ce que vous l'associez, celle-là?
Oui, mais c'est marrant parce que, je sais pas, la semaine dernière, Monica Vitti est morte et ça a été longtemps. Moi, je me suis longtemps dit, si j'étais une femme, j'habillerais comme ça tout le temps, c'est-à-dire un twin set, une jupe droite crayon et des stilettos pas trop haut. Façon, grosso modo, Miuccia Prada. Hein, c'est un peu ça le fantasme. Et je pense, pour moi, c'est resté quand même une espèce de silhouette idéale de la féminité parce qu'elle est à la fois hyper dessinée, très sobre en même temps. Pas beaucoup de choses qui dépassent, enfin voilà, la silhouette est en même temps très aiguë.
C'est ce qui vous plaisait chez des créateurs comme Courrèges, comme ouais. Pierre Cardin?
Ouais, complètement.
Quelle forme,
oui,
quelle
alors ça,
ligne?
c'était plutôt l'idée du futur, c'est-à-dire de fantasmer. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les 60, on était quand même dans une mode assez traditionnelle, d'une certaine manière. Et eux avaient cette capacité comme ça de casser cette silhouette et d'introduire de nouvelles matières, des nouvelles formes, d'abstractiser aussi la silhouette beaucoup, le cercle, le triangle, le carré, enfin voilà, d'un seul coup la fille était plus juste,
non mais c'est passionnant,
elle était aussi un support presque comme d'un tableau.
C'est passionnant parce que vous n'êtes pas du tout nostalgique, Pierre Hardy. Je vous ai même entendu dire que ce qui vous déplaisait dans la mode aujourd'hui, c'était le vintage, c'était le rétro.
Oui. Moi, à titre personnel, je suis pas dingue de ça, mais parce que je sais pas comment dire, je trouve ça vain comme combat. Voilà, je trouve ça dommage de se priver aussi de nouveautés. Voilà, et en même temps, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser pas que c'était mieux avant, c'est jamais vrai, mais que c'était mieux fait. Ça, oui, souvent, par exemple.
C'est le cas.
Oui, oui. Ben pour les chaussures, en revanche, par exemple, c'est le cas. Les chaussures étaient, quand on regarde un modèle des années 60, par exemple, les cuirs sont plus les mêmes, les machines qui cousent ne sont plus les mêmes, les fils sont très très fins, les semelles, mais même les pieds sont plus les mêmes. Enfin voilà, c'est une chose qui a disparu. Et je pense que ça serait vain d'avoir la nostalgie de ça parce que ça a disparu. Ça n'est plus possible.
Parce que des métiers sont en train de disparaître aussi.
Certains, en même temps, oui, mais parfois pour de bonnes raisons. Enfin, je sais pas si on sait par exemple que l'industrie du cuir, les tanneries, c'est pas terrible pour l'écologie, par exemple. Donc, je suis pas un écolo fondamentaliste, mais en même temps, si on trouve d'autres solutions, bah pourquoi pas. Alors oui, on pourra plus faire des beaux escarpins comme on les faisait chez Dior en 1960. Mais est-ce que c'est grave? Non, on fera autre chose.
Pierre Hardy, ça tient à quoi l'élégance?
Moi, je pense que c'est une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin, un accord, un équilibre. Je sais pas, c'est... Je pense qu'il y a une part de, flux naturel comme ça là-dedans. Il faut être et en même temps une part de contrainte. Enfin, une part de maîtrise. Voilà, c'est jouer avec ce qu'on a et le rendre mieux.
Qu'est-ce qui rend une paire de baskets, de tennis, de sneakers élégantes alors? Parce qu'on y reviendra. Vous êtes un des premiers à les avoir fait basculer dans l'univers du luxe.
Bah oui, mais ça, j'en sais rien. C'est moi, je le fais à ma manière. Après, est-ce que il n'y a pas de recette? C'est, je sais pas. D'ailleurs, enfin, si on regarde d'ailleurs ce que les gens aiment sur les, je sais pas, les 5 dernières années, c'est, on aime aussi bien des choses ultra simples, ultra basiques, assez légères, et des choses énormes, hyper baroques, hyper compliquées. Donc, je sais pas s'il y a une. Ça, c'est peut-être une. D'ailleurs, c'est peut-être une des règles esthétiques d'aujourd'hui, c'est qu'il y a. Il n'y a pas de norme, je trouve. Enfin, il y a une norme, mais elle est très, très, elle est multiple. Voilà. Elle est pas aussi, didactique qu'elle a pu l'être dans les années 60. Enfin, voilà. Une silhouette 50, on sait ce que, une silhouette 70, on sait ce que c'est. Une silhouette 80, on sait ce que c'est. Une silhouette 2020, c'est plus ouvert, je trouve. C'est plus multiple. Il y a plusieurs facettes.
C'est plus difficile, alors, quand on n'a pas de contraintes.
Bah, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Bien sûr.
Ah, le passé. Ah oui. On va en reparler du passé. On va reparler de forme, on va reparler de ligne, juste après Patti Smith qui exaltait le passé en reprenant Stevie Wonder en 2007 sur l'album 12, Pastime Paradise. Vous êtes sur France Inter avec Pierre Hardy, vous écoutez Boomerang, évidemment. Alors il est très graphique, hein, quelque part entre l'esquisse à main levée de Cocteau, le sénateur romain, le berger avec son profil impérial, son crâne lisse et proverbial, sa lunette cerclée et son petit air de mésange charbonnière avec son col roulé ce matin et ses chaussures qui portent son nom, le créateur Pierre Hardy. Invité de Boomerang, j'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur la façon dont vous avez effectivement au début des années 2000 interrogé le statut de la basket en la faisant pénétrer dans l'enceinte du luxe. D'abord, qu'est-ce que c'est une basket? Quelle est l'histoire de cette chaussure, précisément?
Bon, de toute évidence, c'est une chaussure de sport. Et on sait à quel point le sportswear a c'est pas envahi à habiter, enfin habite désormais notre façon de nous habiller. C'est voilà, c'est parce qu'on veut bouger, on n'est plus en représentation, enfin dans une autre représentation. Donc vraiment, le sport c'est devenu une valeur aussi en soi, je pense. Mais aussi plus que ça, je pense que de façon assez inconsciente, je pense que c'est aussi un truc sur le mouvement, sur une dynamique, et spécialement une dynamique de la jeunesse. C'est-à-dire que, mais oui, je pense que cette chaussure, c'est une des rares qui a le pouvoir de vous rajeunir. Elle rajeunit n'importe qui. Vous mettez n'importe quelle tenue avec une basket, vous gagnez 10 ans, 15 ans.
Même quand on a 70 ans, 80 ans.
Oui. Je pense que ça, c'est, d'abord, vous êtes bien. Enfin, vous marchez différemment. Vous êtes justement, alors pour le coup, il y a moins de contraintes. Et je pense qu'aussi esthétiquement, narrativement, comme ça, et cette fiction de la. Oui, de votre jeunesse, de votre adolescence, peut-être même des cours de gym, hein, ça peut aller jusque là, mais un truc sur la dynamique.
Je suppose qu'elle permet aussi pour un créateur une multitude de déclinaisons, de variations, de réinventions.
Ah oui, ça c'est l'autre versant d'un point de vue du design, c'est super intéressant parce que là il faut complètement inverser presque le process. Parce qu'une chaussure, une chaussure classique, elle se construit à partir d'une forme, c'est-à-dire le volume en bois qui va donner le volume à la chaussure, la forme, et puis la semelle et le talon. Là, pour une basket, il faut tout bousculer, tout repenser, c'est-à-dire qu'il faut reconcevoir aussi toute la forme de la semelle, redessiner en 3D, refaire toute la structure, etc. Donc et inclure la forme de cette chaussure dans cette base qui est en volume. Donc c'est vraiment une reconsidérer complètement le processus de création, complètement.
Alors, précisément, quel nouveau savoir-faire est-ce que ça mobilise la création d'une basket? Quel travail est-ce que c'est en fait la fabrication d'une chaussure comme celle-là? Sur quel artisanat ça repose?
On n'est pas à la NASA non plus, hein. ça reste maîtrisable, hein. En tout cas. Moi, si je peux le maîtriser, c'est que c'est pas si complexe que ça. Mais c'est peut-être plus de, c'est une vision plus en qui est renouvelée à chaque fois, plus en 3D, c'est-à-dire qu'on fait des maquettes sur ordinateur, qu'on peut regarder sous tous les axes, tout ça. Alors que pour une chaussure traditionnelle, j'ai pas besoin de ça. Je inconsciemment, le schéma, il est déjà intégré. Alors que pour une basket qui va mettre en œuvre des formes et des volumes nouveaux, il faut les contrôler d'une autre façon.
J'ai l'impression que ça vous amuse.
Mais oui, c'est
assez. Vous avez l'œil qui pétille.
Oui, c'est assez excitant, c'est vrai, parce que ça ouvre une porte. En particulier pour l'homme, par exemple, on était quand même super coincé dans
bonnes vieilles chaussures.
Voilà, ouais. Entre une paire de Richelieu à perfos sans perfos, mocassin, gland sans gland, boots élastiques ou courroies, puis voilà. non mais c'était un peu ça quand même. Et alors que la basket, elle a ouvert la porte aux couleurs, aux matières, voilà, à des dingueries beaucoup plus amusantes.
Pour quelle raison vous en êtes emparé? Vous vous souvenez du cheminement dans votre tête, de comment c'est arrivé?
Alors il y a eu deux trucs en parallèle. Chez Hermès, quand j'ai pensé la première basket, c'était, ça me semblait légitime, puisque c'était pas une maison de couture ni une maison vraiment de mode, mais une maison d'art de vivre et plutôt de plein air, plutôt sur l'activité, c'est plutôt sur le
et de cuir.
De cuir, voilà. Je me dis aujourd'hui, c'est plus la chaussure, on va dire sportive de plein air, c'est plus tellement la botte d'équitation ni la chaussure de golf, c'est plutôt une basket, plutôt une tennis. Donc voilà, c'est venu comme ça. Donc j'ai cherché à faire la basket la plus belle, la plus luxueuse, dans le plus beau cuir, faite de la meilleure façon possible à ce moment-là. Ça, c'était une part. Chez moi, c'était autre chose. C'était plus un truc. Alors on parlait de nostalgie tout à l'heure. On disait que j'étais pas nostalgique.
Vous l'êtes quand même un peu.
Chacun a ses.
C'est paradoxe.
C'est paradoxe, exactement. Et là, il y avait un truc comme ça, justement, sur l'adolescence. Et j'avais envie d'une basket, je ne la trouvais pas vraiment sur ce qui est, voilà, dans ce qui existait. Et donc, je dis, je vais faire celle dont je rêve. C'est assez égoïste. Et c'était une espèce de mélange, je ne sais pas. Je me souvenais de la main jaune, par exemple, quand on faisait du patin à roulettes.
Oui.
Voilà.
Et une scène incroyable dans la boum.
Voilà, où on mettait des roulettes sous ses baskets. Et cette basket-là, elle a un truc très spécial. Un peu high-top, comme ça, avec des scratchs. Voilà, donc j'ai essayé de retrouver cette ambiance comme ça, un peu dance aussi, un peu gym.
Mais quand on dessine, quand on est créateur, on s'inscrit aussi quand même dans un temps, dans un moment. En quoi dessiner, Pierre Hardy, c'est quand même sans arrêt être à l'affût de l'air du temps?
Oui, alors oui et non. C'est là aussi pareil, c'est des allers-retours, c'est à la fois en être un peu lucide, enfin pour être désirable, pour correspondre à ce que les gens ont envie dans un instant T, et en même temps, je pense, c'est aussi créer un autre désir, c'est-à-dire voir juste un pas avant et se dire de quoi ils auront envie. En tout cas, en plus, c'est comme ça que ça se passe, parce que moi, je travaille à un an, voire un an et demi, parfois en anticipation. Donc, dans un an et demi, on aura encore envie de ça, vraiment, ou est-ce qu'on aura envie du contraire, ou de la même chose, mais un peu différente, ou, c'est ce genre de réglage comme ça.
Non, c'est une bonne question, de quoi on aura envie dans un an et demi?
Je pense qu'il y a une... Je pense qu'il y a un truc, en tout cas, c'est sur la nouveauté. Je pense que les gens, pour moi, c'est, alors moi j'y crois, c'est pour ça que le vintage me semble toujours un peu vain. Je pense, moi j'ai l'impression que les gens, ils ont toujours envie de nouveauté quand même.
Oui.
C'est ça qui les surprend, c'est ça qui les aime, c'est ça qui les excite. Ah, c'est nouveau, hein, voilà. Sinon, s'il n'y a pas cette étincelle-là, donc moi c'est ça que je cherche, voilà. Et parfois, je sais que j'ai tendance à aller un peu trop loin dans cette histoire-là. Parce qu'on a besoin de nouveautés, mais on a aussi besoin d'être rassuré. On n'a pas envie de passer pour un dingue dans la rue.
Vous parlez de chaussures ou aussi d'accessoires de mode,
de tout,
bijoux.
Oui, en général, oui. Ah, les bijoux, c'est différent. Moi, je pense que les bijoux, c'est vraiment une catégorie à part d'objets.
Ouais.
Ouais. Parce qu'ils sont... Ils sont intemporels. Enfin, si rien ne leur arrive de grave, une genre explosion atomique, ils seront toujours là dans un siècle, trois siècles. Voilà. Donc, c'est le mode de création. Il est beaucoup influé par ça. C'est-à-dire que on crée pas une chaussure pour dans 6 mois, comme on crée un bijou pour l'éternité pratiquement.
Avez-vous fini par aimer la mode, Pierre Hardy?
Elle m'amuse.
C'est une bonne réponse.
Bah oui.
C'est suffisant parfois dans la vie.
Oui, ça peut suffire.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission et d'avoir partagé avec nous l'amour des lignes et des formes. Tout de suite, les médias. Sonia Davila et son Instant M, juste après ça. Porté par le vent, Sébastien Tellier. Il est 9h40 sur France Inter.